Chapitre 42. Lucie et les enfants sortent de la voiture devant l'Angel Inn. C'est un immeuble des années 20, entre Art Nouveau et Art Déco, avec des fenêtres métalliques et une porte à tambour en chrome ouvragé. Ce n'est pas aussi chic que le Dayville, mais le bâtiment a plus de charme et plaît plus à Lucie, mais certainement moins à Henry. Et dans le hall, Lucie prend la main de Stella et l'emmène vers la réception.
Bonjour. « Nous cherchons mon frère, Henry Lamb, ou Joshua Harris. « C'est lui, » indique-t-elle en montrant son portable à l'employé. « Vous l'avez vu ?»«
Oui, » acquiesce la femme en souriant. « C'est Monsieur Harris. Il avait une chambre chez nous, mais il est parti à midi. »
Lucie a l'impression qu'on vient de lui donner un coup de poing.
« Midi aujourd'hui ?»«
Oui, je suis désolée que vous l'ayez manqué. »«
Vous savez où il est parti ?»«
Non, il n'a rien dit. » Mais il est parti à pied, si ça peut vous aider.
Lucie se retourne vers Marco, qui hoche la tête.
Oui, ça nous aide beaucoup. Beaucoup, merci infiniment.
Il quitte l'hôtel et s'arrête un instant au milieu du trottoir. Il fait encore jour. Les rues sont pleines de monde et de clients attablés aux terrasses des restaurants devant de grands verres de vin qui étincellent à la lumière dorée du soleil. Il regarde autour d'eux comme si Henry et sa valise pouvaient apparaître à tout instant.
« Et maintenant ?»«
Aucune idée, » répond Lucie en soupirant. « Il est parti à pied, pas en taxi. Il doit encore être dans le quartier. »
Elle scrute les environs, cherchant des yeux un éclair de cheveux blonds, la courbe de ses épaules, espérant entendre le bruit si spécifique de ses pas dans ses baskets de créateur ou ses beaux souliers de cuir. Mais il n'est pas là, évidemment.
« Vous avez faim ?»
demande-t-elle en observant les cafés, les terrasses, les verres de vin blanc frais luisant dans la lumière du soir. Mais Stella bâille. Il est minuit passé à Londres. Cela fait presque 24 heures qu'elle est debout. Ils prennent un Uber pour retourner au Dayville, commandent un room service et, à 20 heures, ils dorment tous les trois à point fermé, même Lucie. Le lendemain matin, elle se réveille en plein milieu d'un cauchemar, trempée de sueur, les yeux écarquillés, et pendant un moment, elle ne sait plus où elle se trouve. Elle a l'impression d'être à l'envers, que le plafond et le sol se sont intervertis, que les murs se rapprochent. Elle s'assied d'un coup et reprend son souffle. Elle voit les boucles de sa fille sur l'oreiller à côté d'elle et entend Marco ronfler doucement dans le salon. Elle attrape son téléphone. Il est 8 heures. Elle vient de dormir 12 heures d'affilée et se sent encore exténuée. Elle se frotte le visage, va prendre une douche, mais elle ne parvient pas à se sentir propre, malgré la chaleur de l'eau et le parfum de pamplemousse du savon. Elle s'assied sur le bord du lit en peignoir, les cheveux enroulés dans une serviette, et prend son téléphone. Son cœur s'arrête de battre, puis reprend à toute vitesse. Elle a reçu une flopée de messages de Libby sur WhatsApp.
« Le chien, » pense-t-elle d'abord. « Il est arrivé quelque chose au chien. » Mais non, ce n'est pas Fitz. C'est bien pire.
« Maman, je ne veux pas te faire peur, ce n'est sans doute rien, mais la police est venue hier. Ils m'ont posé des questions sur toi et Henry, si vous étiez vivant, si vous m'aviez contacté au sujet de l'héritage. J'ai menti du mieux que j'ai pu, mais j'ai un peu foiré. J'ai dit que Fitz était le chien de ma mère, ensuite j'ai dû préciser que c'était celui de ma mère adoptive, mais je sais qu'il a compris que quelque chose clochait. Il savait que je lui mentais sur toute la ligne. »
Mais c'est le dernier message de Libby qui l'a fait complètement paniquer.
Ils m'ont dit qu'ils enquêtaient sur la mort de Birdie Dunlop Evers. J'ai fait comme si je n'avais jamais entendu ce nom. Je pense qu'ils m'ont cru. Je crois que ça va aller.
Lucie laisse tomber son portable sur le lit. Birdie Dunlop Evers. Rien que de lire ce nom dans le message de sa fille lui donne la chair de poule. Sa vision s'obscurcit. Sa tête se remplit de brouillard noir. Ses narines retrouvent l'odeur des cheveux de Birdie. Les relents chauds et rances de son haleine contre sa joue, pendant qu'elle déplaçait avec précaution ses doigts sur les cordes du vieux violon avec lequel elle leur apprenait à jouer. Elle se souvient de la façon dont Birdie l'avait manipulée, comment elle l'avait progressivement incluse dans sa relation avec David Thompson, la faisant se sentir spéciale en se livrant avec elle à des activités illicites, loin du regard des autres, en lui offrant de petits cadeaux, des chouchous, du vernis à ongles, des maltésers qu'elle mangeait dans leur chambre pendant que Birdie la dévorait du regard. Elle a des flashbacks d'un magazine de musique pop, d'un paquet de chewing-gum aux fruits, d'un parfum de marque dans une bouteille avec un nœud doré, d'une paire de chaussures en cuir bordeaux à talonnettes qu'elle avait fabriquées pour David, tandis que Birdie la pomponnait. Peu à peu, il s'était imposé dans l'espace qu'elle partageait avec Birdie quand elles passaient du temps ensemble. D'abord en gardant ses distances, en observateur, puis en participant, jusqu'à finir au centre de leur relation. Et un jour, Birdie n'était plus là, et Lucie s'était retrouvée seule avec David. À l'époque, elle s'était sentie honorée qu'il veuille passer du temps avec elle. Elle ressentait constamment comme le picotement d'un collier de glace autour de son cou, une rumeur dans le ventre, un appétit sombre au plus profond d'elle. Elle désirait désespérément quelque chose sans même savoir ce dont il s'agissait. De l'attention, peut-être, mais certainement plus. Elle voulait être aimée. Elle avait tellement besoin d'amour que cela la faisait souffrir. Et c'était ce mot-là que David Thompson utilisait. Amour. Lucie pense souvent à David, mais très rarement à Birdie. Celle-ci est tombée dans les limbes de son histoire personnelle depuis bien longtemps. Une note de bas de page, un effluve, un lambeau. Mais à présent, elle envahit tout son espace mental, chaque atome de son être, chaque recoin de son âme. Birdie et ses cheveux longs jusqu'aux fesses, ses jolies mains, ses petites dents, son accent. Birdie et ses yeux bleus sans vie. Maintenant que Lucie est une femme, la mère de 3 enfants, maintenant qu'elle est plus âgée que Birdie ne le sera jamais, elle sait que les précieux petits cadeaux, les murmures cachetiers et les gouttes de parfum n'étaient qu'une stratégie pour gagner sa confiance et la mettre en valeur, afin qu'elle se sente assez spéciale pour penser que coucher avec un homme de 46 ans quand elle n'en avait que 13 était acceptable. Lucie sait désormais que Birdie l'a manipulée, que c'était un monstre. Elle sait qu'elle est morte d'un traumatisme crânien et que Henry est responsable. Les 3 corps dans la cuisine, Birdie dans la chambre, Finn attaché au radiateur, le chat, mort aussi, le fœtus que sa mère a perdu à 5 mois de grossesse. Elle sait que son frère est responsable de tout cela, mais elle ignore les détails. Elle se souvient seulement du choc de voir Birdie inanimé, sans puissance, une marionnette flasque, un rien. Elle se rappelle le poids innommable de son corps pendant qu'il la montait avec Henry sur le toit de la maison de Cheyne Walk. Et maintenant, un policier à Londres a découvert que Birdie était morte et a décidé que ce décès devait être lié aux gens qui habitaient la maison à l'époque. Elle ne comprend pas comment il a pu comprendre cela, comment l'enquête a pu progresser si vite qu'il est déjà allé chez sa fille à Saint-Alban pour lui poser des questions embarrassantes sur sa famille. Mais elle sait que ces interrogations, à présent qu'elles ont commencé, ne s'arrêteront pas. Que de nouvelles suivront comme les pas d'une danse, jusqu'à ce qu'ils atteignent un point dans la chorégraphie de sa vie. Il y a presque 1 an, où elle a commis un acte terrible, déterminant. Et Lucie sent une corde se serrer et se resserrer autour de son cou au point qu'elle ne peut presque plus respirer.